Hello, coucou tout le monde, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette masterclass. Bonjour Jérôme.
Bonjour Morgane, bonjour à toutes et à tous.
J'espère que vous allez bien. Nous, on est trop contents. Est-ce que vous savez pourquoi?
Yes. Il est sorti, il est en librairie, il est partout, il est beau, il est complet et il vous accompagne à devenir un meilleur leader à travers les sept types de leadership que vous pouvez cultiver.
Et justement, on a décidé de vous faire cette petite masterclass pour aller encore un peu plus loin et vous donner des informations complémentaires.
Exactement. Donc là, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous amener à réfléchir sur ces sept profils que nous décrivons dans l'ouvrage et bien entendu de répondre à vos questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous laisser un commentaire. Nous y répondrons à la fin de cette session. Donc voilà, écrivez-nous et ça nous fera vraiment plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Et par exemple, une question que vous pouvez mettre aussi, c'est la question. S'il y a une seule question à laquelle vous aimeriez que nous répondions sur le thème du leadership, ce serait laquelle? Mettez-la en commentaire, on y répond à la fin.
Et j'aimerais bien aussi, alors peut-être que vous n'avez pas encore le livre là dans les mains aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il vient d'arriver aujourd'hui, vient de sortir aujourd'hui, essayez de trouver quels sont nos profils avec Jérôme, ça peut être très sympa, et essayez de trouver aussi le vôtre. On va parler plus précisément aujourd'hui de tout ce qui va être communication et inspiration des différents profils de leaders. Nous avons donc sept profils, on vous les rappelle. Il y a le leader visionnaire, le leader mentor, le leader pragmatique, le leader charismatique, le leader diplomate, le leader collaboratif et le leader compétitif. Et on est tous un petit peu, chacun de ces profils-là, dans le test, en fait, on a mis en place des pourcentages. Donc, ça ne va pas vous dire. Vous êtes un leader visionnaire, ça va vous dire, vous êtes leader visionnaire à 26,82%, vous êtes leader pragmatique à 12,65%, etc. Et en fait, ce qu'il faut faire avec ça, qu'est-ce que vous en faites? Bah, vous regardez si c'est un petit peu équilibré, vous regardez, il y a peut-être des leaderships où vous êtes à zéro. Moi, je ne fais pas de spoiler, mais j'ai un des points leader où je suis à zéro pour le moment. Mon objectif, c'est d'augmenter ce score. Parce que bah, j'ai aussi besoin de cette partie-là de leader. Et puis du coup, voilà, on va vous parler un petit peu de comment chacun de ces profils, quel est son rapport à la communication, comment il inspire les gens, comment on peut communiquer avec. Est-ce que toi, tu voulais commencer peut-être avec le leader visionnaire sur la communication, Jérôme?
Voilà, donc l'objectif, c'est de passer en revue chacun des profils en commençant par le profil du visionnaire. Et c'est vrai, bah, comment un visionnaire tend à communiquer? Et donc, si, donc peut-être que c'est votre manière de communiquer ou peut-être que vous connaissez quelqu'un qui communique comme ça. Un visionnaire, il est vraiment orienté vers le futur. Voilà, une personne qui est visionnaire, elle est orientée vers le futur. Et en étant orientée vers le futur, elle sait très bien que eh bien, ça ne se passe pas toujours comme prévu. Donc, s'il y a des prévus, des imprévus, des changements, c'est OK. Et un leader visionnaire aura vraiment cette tendance à encourager l'adaptabilité. C'est-à-dire, bah, voilà la vision. Et bah, même si le chemin identifié ne fonctionne pas, eh bien, on va trouver autre chose. On va trouver une nouvelle manière de faire. Et va vraiment être focus sur comment on s'adapte. Comment on trouve de nouvelles manières de faire et va vraiment insister là-dessus dans sa manière de communiquer et que bah, finalement c'est toujours OK parce qu'à partir du moment qu'il y a le cap, on peut toujours y arriver. Et un leader visionnaire aussi a besoin de nouveautés, de nouvelles idées. Le driver, un des drivers du visionnaire, c'est vraiment la créativité, l'innovation. C'est pour ça qu'il est orienté vers le futur. Et bah, si vous voulez bien communiquer avec un leader visionnaire, eh bien, apporter de nouvelles idées, orienter cette personne vers le champ des possibles, la créativité, l'innovation, et vous allez voir que ça se passera beaucoup mieux, en fait. Hein. N'allez pas aller tout de suite chercher des petits détails de comment on fait. Le leader visionnaire, il n'est pas tout de suite sur le comment, hein, dans sa manière de communiquer. C'est plus le « et si on faisait ça ?» plutôt comment on va le faire ?» Donc, c'est vraiment une des spécificités du leader visionnaire. Et de cette manière, en fait, en communiquant de cette manière, il va forcément inspirer les autres à être plus créatifs, à penser différemment, à tester de nouvelles choses, à s'ouvrir au champ des possibles avec cette manière de communiquer. Et finalement, va aussi être dans cette dynamique de rappeler la vision. C'est oui, bien entendu, il faut être créatif, innovant, etc. Mais en gardant le cap quand même. Hein. C'est pas juste pour être créatif et être artiste. C'est quand même une vision, et le leadership, c'est pas juste emmener le groupe, c'est emmener le groupe vers une direction pour un cap. Et le leader visionnaire ne perd jamais le cap de vue, même si c'est à travers la créativité et l'innovation.
Oui, puis la façon dont il communique est un petit peu le reflet de ce qu'il va inspirer chez les autres, c'est-à-dire il va inspirer la créativité, l'innovation, cultiver l'anticipation de problèmes aussi. Moi, ce que j'ai remarqué chez les entrepreneurs en particulier, c'est qu'il y en a beaucoup qui aiment bien commencer des projets. Je ne sais pas si tu as dû voir aussi ce type de profil. Un visionnaire, si vous avez un pourcentage visionnaire, vous avez sûrement aussi le truc de vous aimer commencer. Et après, bon, ben, faut le déléguer à quelqu'un parce que, en fait, dans l'opérationnel et dans le pragmatique, ça va peut-être être un peu plus difficile. Donc, voilà, le visionnaire, il est vu comme quelqu'un qui est vraiment dans l'innovation. Il inspire les gens sur aussi sa façon de s'adapter, sa façon d'être dynamique aussi et d'être passionné dans son discours. Et puis, il a une motivation qui fait que vraiment, il s'interroge sur qu'est-ce qui va se passer après. Voilà. C'est quoi le futur? Qu'est-ce qui va arriver? Donc, sa motivation, c'est vraiment la créativité, la vision, la passion, le fait de bouger quelque chose, le fait de changer les codes aussi, et le fait d'aller toujours de l'avant et d'être en mode solution. Voilà, comme tu disais, le comment, le machin, c'est ensuite.
Oui, d'ailleurs, ça peut agacer un visionnaire ou une visionnaire, toute cette dimension, ouais, mais est-ce que ça va être vraiment possible? Comment on va faire? Ou mais avant, on faisait comme ça, on a toujours fait comme ça. Alors le truc, je pense, qui agace le plus en termes de communication, un leader visionnaire, c'est bah, « on a toujours fait comme ça ouais. ». Oui, mais ça, c'était avant. Nous, maintenant, c'est le futur. On va où maintenant
ouais, c'est ça. Et puis, « on a toujours fait comme ça », oui, c'est une phrase vraiment… Si un jour vous prononcez cette phrase, il faut vous remettre en question parce que ce n'est pas une raison suffisante pour faire une action. Est-ce que cette action, elle est efficace? Est-ce qu'elle apporte vraiment quelque chose? Est-ce qu'on ne peut pas refaire autrement? Et c'est vrai que là, alors, on est aujourd'hui avec l'intelligence artificielle notamment et toutes les technologies. Si vous ne remettez pas en question des parties de choses qu'on a toujours fait comme ça, ça va être compliqué au niveau de la concurrence, au niveau de la productivité, au niveau de plein de choses.
Donc, ce qui est intéressant aussi pour mieux comprendre quel type de profil vous êtes ou à quel type de profil vous faites face, entre guillemets, en termes de communication, c'est de voir aussi les petites phrases que cette personne va dire et les phrases qui vont la titiller, qui vont la piquer un peu. Ça peut être un indicateur également. Après, bien entendu, le questionnaire que l'on a fait sur leleadership.com va confirmer peut-être ces intuitions-là.
Oui, si vous voulez savoir, effectivement, vous pouvez aller sur leleadership.com et vous pouvez faire le test. C'est gratuit. Et puis, vous aurez vos petits pourcentages et ça va vous parler. On passe au leader pragmatique.
OK. Donc, le leader pragmatique. Comment ce leader va communiquer? Alors, comme c'est un pragmatique, Le leader pragmatique, lui, va aimer le comment. Contrairement au visionnaire, lui, ce qui est, voilà, concrètement, en fait, il faut que ce soit concret. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Quelles sont les étapes? Donc, on a besoin, le leader pragmatique a besoin de clarté. Donc, dans sa manière de communiquer, eh bien, il va parler en étapes. Il va parler en points, avec des exemples, pour que la personne à qui il parle comprenne exactement quoi faire, comment le faire, dans quel ordre, pour que ce soit pratique, en fait. Donc, il y a vraiment cette dimension de clarté qui est très forte dans la manière de communiquer d'un leader pragmatique. Aussi, le leader pragmatique a besoin de précision. Hein, rester un peu vague, oui, mais bon, on n'a pas besoin de se prendre la tête dans les détails. Ben, si, avec un leader pragmatique, les détails comptent. Et d'ailleurs, ce n'est pas que les détails comptent, c'est les détails font la différence avec un leader pragmatique. Donc, les détails sont importants. Donc, c'est pour cela que cette personne va être pointilleuse sur le choix des mots, le choix de chaque décision, etc. Et bien entendu, c'est vrai que parfois, ça peut être un frein en fonction du niveau d'avancement d'un projet. En revanche, cette facette du leadership est très importante également, comme au même titre que la facette de leader visionnaire. Au début du projet, ou à un moment du projet, on a besoin d'un coup de boost et de voir les perspectives, c'est super. Par contre, quand on passe à l'action, c'est important d'avoir cette facette pragmatique. Et pour qu'on puisse, bah d'ailleurs, un leader pragmatique a besoin de voir comment ça s'ancre dans le concret, dans le réel, en fait. La vision, hyper importante, mais aujourd'hui, ça l'est aussi. Comment on ancre tout cela dans le concret, par de l'action, par de la précision, par du détail, et également de faire en sorte que ce soit le plus objectif possible. Un pragmatique va être très factuel. Voilà les faits, voilà les chiffres, les KPI, les indicateurs, etc. Et ça, ça va être très important pour piloter un projet et pour être le plus objectif possible avec une équipe, par exemple. Donc, voilà, si vous voulez identifier un leader pragmatique, vous parlez un peu de manière fouillie, que les détails ne comptent pas, etc., vous êtes sûr que vous allez commencer à froisser un pragmatique.
Ouais. Et il y a des profils où, pour eux, le pragmatique, c'est l'emmerdeur de service, parce qu'à chaque fois qu'ils vont dire quelque chose, le pragmatique, il va leur dire « Oui, mais si tu fais ça, il va se passer ça. » Et tous... Mais quoi? Mais on veut pas le savoir. Nous, on voulait avancer. Donc, oui, il va mettre l'accent sur du process, des trucs bien rangés, bien classés, bien clairs. Son inspiration, ça va être dans la précision, quelque chose d'objectif. Il aime bien les chiffres, le pragmatique. Il veut que ce soit mesuré et il veut avoir comment vous dire, toute la carte. C'est-à-dire que quand vous arrivez, vous lui parlez d'un truc qui est ici, lui, il s'en fiche en fait. Lui, il va dire oui, mais attends, la connexion avec ça, la connexion avec ça, la connexion avec ça, avec ça, avec ça. Il a besoin d'avoir toute la carte. C'est souvent des gens qui aiment bien le mind mapping aussi sur les pragmatiques. Et une fois qu'ils ont toute la synthèse, là, ça va, ils sont rassurés, ils peuvent travailler. Mais ils peuvent être bloqués aussi dans vos équipes parce que, justement, ils n'ont pas assez de données. Vous ne leur donnez pas assez de matière, vous ne donnez pas assez de data et du coup, ils vont paniquer et ils vont se braquer. Donc, voilà, eux, ils veulent planifier, structurer, organiser, contrôler, optimiser les process. Donc, c'est des gens, il faut les avoir dans l'équipe, quoi, vraiment. Parce que si vous voulez avancer, que ce soit bien, c'est des personnes qui marchent très, très bien. Ils aiment bien l'efficacité, la précision, la structure. Voilà. Et ils ont un souci de, je pense, d'équilibre aussi, tu vois, de quelque chose qui est, qui n'est pas subjectif, qui est objectif. Voilà.
Et quelque part, cette facette du leadership amène à l'excellence. Ouais. Parce que c'est ce qui va toujours pousser l'équipe à aller un peu plus loin en termes de détails, en termes de précision, en termes de des fois de beauté, etc. Ouais. Et c'est vrai que le processus vers l'excellence est parfois désagréable. Néanmoins, ça porte des résultats. Donc, il y a aussi cet élément-là également dans le pragmatique.
Yes, complètement. On fait le leader charismatique.
Yes. Alors, comment le leader charismatique fonctionne? Le leader charismatique, c'est celui qui rayonne, qui va il va énergiser un groupe de par sa manière de communiquer. Donc, le leader charismatique, c'est vraiment celui qui aura beaucoup plus de facilité à communiquer auprès d'un groupe, qui va énergiser, qui va être le motivateur ou le motivateur du groupe par la parole notamment et par sa manière de s'exprimer en fait. Donc souvent, les leaders charismatiques vont avoir des prises de parole inspirantes. Voilà, souvent la petite histoire qui va captiver les gens, on va rentrer dans son univers et à la fin, paf, il y a le déclic. Donc ça, c'est du leader charismatique. Le leader charismatique, c'est aussi une personne qui va oser prendre la place dans l'espace. Pas pour écraser, attention, le leader charismatique, c'est pas la personne qui va s'imposer et écraser tout le monde par sa présence. Hein, on peut briller sans éblouir les autres et que leur lumière devienne moins intense. Non, un leader est là pour faire grandir quelle que soit sa facette. Donc, le leader charismatique, lui, va réussir à prendre sa place, mais aussi pour inspirer les autres à le faire d'autant plus. Donc, il y a aussi cette notion d'énergie aussi chez le leader charismatique par rapport à un groupe et qui va l'emmener, le faire grandir. Le leader charismatique a vraiment cette dimension émotionnelle très forte. Par exemple, un pragmatique va être beaucoup plus dans du factuel, dans de l'objectif. Le charismatique va être beaucoup plus dans du subjectif, dans du vécu, dans de l'émotionnel. C'est pour ça qu'il va beaucoup utiliser le storytelling, le fait de raconter une histoire pour faire voyager les gens, les transporter et les énergiser par l'émotionnel. Donc, le charismatique a vraiment cette dimension-là. Et par exemple, ça va être difficile pour une personne qui aura une prédominante charismatique de rester très factuelle, de moduler sa voix de manière très monotone, de pas trop prendre de place. Charismatique, il a besoin d'être libre, en fait, dans ses émotions, dans son langage corporel, etc. Et ça a aussi vraiment un impact très fort chez l'équipe parce que le côté factuel est important, bien entendu, pour l'excellence, le passage à l'action, la clarté, etc. Mais après, nous sommes tous des humains. Et cette notion d'émotion est hyper importante et c'est ce qu'apporte notamment le leader charismatique dans sa manière de communiquer.
Complètement, c'est la personne qui t'inspire quand un leader charismatique, tu rentres dans une pièce et tu sais qu'il est rentré. Voilà. C'est la personne qui va, t'es dans un événement, un réseau, il est là, tu l'entends, il rigole fort, ça bouge les bras, ça va de groupe en groupe, ah comment tu vas Jean-Bernard, ouais, moi ça va et tout, ouais machin, et il est comme ça, donc il peut aussi ultra agacer, il y a des gens qui le trouvent égocentrique, il y a des gens qui le trouvent ridicule, il peut provoquer ça, mais c'est quelqu'un qui est presque innocent, j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire que il se dit pas je suis meilleur que les autres, c'est sa façon d'être, voilà. Ils aiment l'enthousiasme, ils aiment être éloquents, ils voient que ça motive, ça inspire les autres, donc ça les encourage à le faire. Et un leader charismatique, c'est important pour l'équipe pour aller chercher un engagement, pour aller voilà quand il y a des moments qui sont difficiles. Allez, un petit discours du leader charismatique, là, et on est reparti pour 2 mois de boulot alors qu'on n'en pouvait plus. Voilà, c'est quelqu'un qui est passionné et qui peut jouer le rôle dans votre boîte. On va dire, les commerciaux sont, si on a du leader charismatique, c'est pas mal. Ce qu'ils aiment bien aussi. C'est pas forcément des gens qui sont fouillis, au contraire, ils aiment bien que ce soit efficace. Ils aiment bien les process efficaces, ils aiment bien que ce soit logique, que ce soit optimisé. Donc, quelquefois aussi, on peut se faire avoir en voyant quelqu'un de jovial, de machin et tout ça, mais ça doit quand même être carré. Voilà. Donc, le leader charismatique, il va apporter des solutions logiques, il va apporter la bonne ambiance, il va apporter un charme. Et c'est vrai que si je devais le mettre, comparer un réseau social, je ne sais pas pourquoi l'idée me vient comme ça, je vous dirais le leader charismatique, c'est un peu Instagram. Voilà. Le leader, je me lance là-dedans, je ne sais pas pourquoi, je n'aurais pas dû. Le leader pragmatique, je dirais que c'est un petit peu un LinkedIn. Le leader mentor, comment je vais m'en sortir ? On va le mettre sur, TikTok. Ah oui, c'est des profils, et encore une fois, hein, on est tous différents, chaque lead. Même si vous êtes la dominante leader charismatique, vous avez aussi des pourcentages de diplomates, de collaboratifs, de compétitifs, donc vous n'êtes pas juste ça. Je suis sûre et certaine à 1000% qu'il n'y a personne, aucun d'entre vous qui va avoir 100% dans une des catégories. Ce n'est pas possible. Voilà, je vous le dis. Si jamais vous me trouvez ça, montrez-moi, je vous fais un chèque, il se passe un truc, mais ce n'est pas possible. On essaie là-dessus. Ben moi, c'est bon pour moi, pour charismatique.
Yes.
On passe sur diplomate.
Allez, passons sur le diplomate. Alors, comment un leader diplomate communique ? Eh bien, le leader diplomate, son objectif, c'est l'harmonie dans le groupe. Le leader diplomate n'aime pas les conflits, il n'aime pas les tensions, il aime bien quand c'est fluide, quand il y a de l'harmonie, que les gens communiquent bien, etc. Donc, déjà, la première chose qui va être importante pour un leader diplomate, c'est que les gens parlent. Parce que souvent, les sources de conflits, les sources de tensions viennent des non-dits. Mmh. C'est on n'ose pas dire, etc. Et ce qui est intéressant avec un diplomate, c'est que, parce que dans la notion de leader, on a les cinq piliers, hein, notamment le dernier pilier qui est le courage et l'audace. Et on va dire que le courage du diplomate, c'est de réussir à, malgré l'inconfort, aborder des sujets, des discussions difficiles pour que les gens puissent parler. Se parler, parce que c'est la clé de la communication, de l'apaisement, et de le faire avec empathie. Le leader diplomate ne va pas chercher à imposer, il ne va pas chercher à se dire, bah voilà, lui, c'est son objectif, c'est ça, et il va y aller, il va tout faire péter. Non, ça, ce n'est pas le diplomate. Le diplomate, c'est avant tout écouter, comprendre, faire preuve d'empathie pour qu'une fois qu'il a bien compris les besoins ou les problèmes de la personne, eh bien, comment eh bien, il pourrait améliorer la situation, par le dialogue notamment, mais pas que. Le leader diplomate va s'assurer qu'il n'y a personne qui reste derrière et qu'il n'y a qu'une partie du groupe qui avance. Donc, le leader diplomate va toujours faire en sorte que le groupe ensemble avance et que tout le monde se sente inclus, qu'il n'y ait pas d'exclus dans le groupe. Et c'est vrai que la dimension du leader diplomate est importante là-dessus aussi pour fédérer de cette manière-là et pas qu'il y ait des gens qui restent derrière. Et le leader diplomate, bah, c'est aussi une personne qui arrive à négocier. C'est une personne qui arrive à mettre d'accord et qui est, on va dire, le roi ou la reine du consensus. Donc, même si certaines personnes ne peuvent pas être totalement d'accord, le diplomate, lui, va réussir, par sa manière de communiquer, que le groupe se mette d'accord à un moment donné pour continuer d'avancer tous ensemble avec cette notion d'inclusion et que, avec aussi la notion de respect, que tout le monde a le sentiment que ses besoins, ses envies, ses ambitions soient écoutées également et pas juste « bon, bah, on y va parce que c'est l'objectif ». Donc voilà ce que je dirais par rapport au leader diplomate qui est quand même très challengé par la notion de conflit quand même.
D'ailleurs, tu parlais de négociation et dans le bouquin, vous verrez, il y a une interview que tu as faite d'un ancien négociateur du GIGN, sur la partie justement du leader diplomate. Donc, on vous laisse découvrir, on ne va pas vous faire de spoiler, mais c'est hyper intéressant. Au niveau de l'inspiration, oui, c'est ça, il va inspirer les autres justement sur cette... tendance à favoriser l'empathie, le consensus, l'inclusion. Il a un côté collaboratif, hein, dans ce qu'il fait. C'est d'abord les autres. Il va se mettre en retrait Et lui, ce qu'il veut, c'est de l'harmonie. Il veut que les choses fonctionnent. Sinon, il se sent mal, en fait. C'est aussi pour ça qu'il fait ça. C'est que si l'environnement est hostile, s'il y a des gens qui sont pas d'accord et que ça crée un effet, une énergie négative dans son environnement, ça va lui poser un gros problème et il va se mettre dans la tête d'aller résoudre ce truc tout en étant complètement dans le consensus et dans la bienveillance. Et en général, ce sont des gens qui vont pas se mettre à hurler. Ils vont toujours rester sur un ton très cordial. Ils vont dire les choses, mais voilà, ça va toujours être dans la une main de fer dans un gant de velours un peu. Et voilà, il veut de l'harmonie. Il veut de l'harmonie, de la coopération, du respect. Il aime bien l'équité. Que les gens, ils aient, voilà, que ce soit équitable pour tout le monde. Et il cherche à garder et maintenir un environnement de travail qui est harmonieux, respectueux et juste. Voilà, c'est hyper important pour lui. Donc, je cherche un réseau social. Du coup, je dirais que c'est Threads d'Instagram. On est encore sur un réseau social aujourd'hui, comme il vient d'apparaître en Europe il y a quelques mois, qui est cordial pour le moment, qui est assez, je trouve, dans un environnement assez diplomate. Donc, je mettrai Threads. Sur le leader diplomate. J'improvise les réseaux sociaux. J'avais
oui,
pas prévu.
Ouais, c'est ça. C'est, là, on parle pas d'association de réseaux sociaux au profil dans le livre, mais ça peut être intéressant comme exercice, en effet.
C'est une vidéo bonus. Je donne des choses supplémentaires, voilà, que vous n'avez pas ailleurs. C'est comme ça. Le leader collaboratif.
Allez, c'est parti pour leader collaboratif qui peut sembler quand même assez proche du leader diplomate, avec la nuance où le collaboratif, oui, forcément, va aussi privilégier l'harmonie, etc. Mais lui, ce qui va être plus important pour le collaboratif, notamment en termes de communication, c'est le groupe, ensemble. C'est le côté vraiment ensemble. Autant le diplomate va s'intéresser principalement aux individus, aux individualités dans le groupe, autant le collaboratif va voir l'ensemble du groupe. Et donc, va par exemple ne pas se sentir à l'aise quand il est dans un contexte très autoritaire, en disant voilà, c'est ça l'objectif et on y va, et que vous êtes d'accord ou pas, c'est comme ça. Non, le collaboratif est vraiment dans cette notion de on est un groupe, on est soudé, on veut la même chose et c'est parti ensemble. Donc, le collaboratif va être souvent initiateur d'échanges en groupe. Par exemple, un diplomate va peut-être faire plus de one-to-one. Il dit, OK, bon, alors, un tel m'a dit ça, qu'est-ce que toi, t'en penses ? Il va passer beaucoup plus de temps en one-to-one, alors que le collaboratif, lui, va plutôt chercher des moments collectifs ensemble dans le groupe. Et que, oui, à travers ces moments collectifs, que tout le monde arrive à s'exprimer et qu'on sente qu'il y a une vraie cohésion de groupe. Donc ça, c'est une première facette de la communication du leader collaboratif. La deuxième facette, c'est aussi que, bah, comme pour tout leader qui veut que toute l'équipe progresse, c'est qu'il y a une vraie culture du feedback. Une vraie culture du feedback, mais avec transparence. C'est-à-dire pas juste que cette personne-là ait ses feedbacks, etc. C'est qu'on arrive assez facilement à se partager des feedbacks, même de manière publique, et que c'est OK. En disant, ben voilà, tiens, et donc généralement des feedbacks constructifs dans un environnement propice à cela, donc pas forcément des feedbacks à chaud, comme on pourrait le voir parfois, et que si on donne un feedback à chaud au travers d'un groupe, ben la personne peut se sentir offensée, pris de court. Non, ben attends, moi, j'ai rien demandé, on balance ça en pleine figure, devant le groupe. Non, le leader collaboratif va créer des moments de feedback. Donc, par exemple, moi, de mon côté, avec mon équipe, ben, tous les mois, on fait un moment, un point, et on sait que durant ce point, on peut se dire les choses, entre guillemets, de manière constructive, toujours. On est vraiment aussi sur, comme on est sur du groupe, on est vraiment sur la démocratie, c'est-à-dire, par exemple, faire des votes, faire des sondages pour voir ce que pensent les autres, etc. Et Et tout cela avec transparence pour que tout le monde puisse avoir une espèce de météo du groupe et pas que ce soit des perceptions individualisées. Mmh. Et vraiment tout cela dans une dynamique d'écoute, que tout le monde s'écoute, que tout le monde s'entende pour qu'on puisse tous aller ensemble. Donc moi, ce que je pourrais dire sur le style de communicant, le style de communication des leaders collaboratifs.
L'inspiration chez lui, ça va être vraiment l'échange, le partage, la co-création, se nourrir de la communication, des échanges qu'on a avec les gens. Et effectivement, plutôt à plusieurs personnes, donc des petits groupes ou même un peu plus, mais voilà, il aime bien qu'il y ait plusieurs personnes avec lui. Et il va vraiment pouvoir monter des projets assez ambitieux. Pourquoi ? Parce que, je ne sais pas si vous le savez, alors il y a une étude là-dessus, mais je ne l'ai plus en tête, donc je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais plus, peut-être que toi tu la connais, plus vous ajoutez des gens dans un projet, et plus ce projet va prendre du retard. Et en fait, le leader collaboratif est essentiel dans un projet où il y a beaucoup de gens, parce que c'est grâce à lui, en fait, que les gens vont se parler. Parce que ce n'est pas parce que vous avez plus de gens que vous êtes plus effectif, plus productif et que les gens se parlent mieux. Au contraire. Donc, quelqu'un comme lui, il va vraiment être là pour un des métiers qui est pas mal en collaboratif, ça va être tout ce qui est chefferie de projet. Les commerciaux aussi sont pas mal et tout ce qui va être RH, ressources humaines. Et les collaboratifs, ils cherchent à avoir quelque chose de démocratique, de participatif. Il faut que les gens donnent leur point de vue et il faut qu'on trouve un consensus entre toutes les personnalités. Toutes les personnalités sont bienvenues et il faut vraiment qu'on crée un truc ensemble. Voilà. Le moteur, c'est le truc que t'aimes bien, toi, ensemble on va. Attends.
Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.
Exactement. Voilà. Ça, ton pourcentage collaboratif, il doit être pas mal. Je m'en souviens plus, mais je pense qu'il est pas mal. Voilà. Ça, c'est typiquement, si vous avez quelqu'un qui vous dit ça, son pourcentage en collaboratif, il est assez haut, c'est sûr. Réseau social. Alors moi, je mettrais Discord. Tout simplement parce que là tu es vraiment en collaboration, tu es dans plusieurs groupes, tu parles avec les gens, tu donnes ton grain de sel, tu machin. Donc je trouve que c'est pas mal sur le profil collaboratif Discord comme réseau social.
Ouais, pas mal. Je pense que ça doit être différent du compétitif, par exemple.
Ouais.
Je prends le leader compétitif qui, dans sa manière de communiquer, va être très différente du leader diplomate ou du leader collaboratif, par exemple, parce que le leader compétitif, c'est vraiment dans la performance. On va performer. Et donc, dans cette envie de performer, même dans sa manière de communiquer, il y a un côté un peu guerrier dans tout ça. Le fait de, on a un objectif, allez, on y va, on va se dépasser. Alors, et bien entendu, toujours avec cette dynamique de leader, c'est-à-dire toujours avec la vision, avec le fait d'y aller ensemble et avec le fait de grandir ensemble. Il n'y a pas de jugement de valeur compétitif. A aussi cet avantage d'inspirer les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes et à progresser et à apprendre de cette manière-là.
Ouais.
Donc, un leader compétitif, dans sa manière de communiquer, va... déjà être drivé par des objectifs très clairs. Par exemple, moi, je travaille avec pas mal. Bah, d'ailleurs, Eric Allard, qui a aussi été interviewé dans le bouquin, lui, il est. Quand on parle de compétition, la première chose, c'est oui, mais c'est quoi le résultat qu'on a envie d'avoir ?
Ouais.
Et si ce n'est pas précis, on ne peut pas y aller. Quand on fait quand on prépare une équipe olympique comme lui l'a fait pendant de nombreuses années. Donc ça part de là déjà, objectif clair. Ensuite, d'ailleurs ce qu'il disait aussi, ce qu'il dit régulièrement, c'est que les champions mangent du feedback au petit-déj. Oui, la culture du feedback, très très importante pour progresser. C'est important. de tout de suite avoir du feedback. Donc là, on est plus dans la culture du feedback à chaud. C'est-à-dire, je fais
oui.
un truc, paf, tout de suite. Quel est le feedback? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Qu'est-ce que j'ai bien fait?
Ouais.
Et cette culture du feedback, que ce soit pour soi, mais aussi pour les autres, qui fait que, on va continuer à progresser, on va continuer à évoluer. Un leader compétitif va aussi souvent faire de la reconnaissance en disant ah, voilà, ah, t'as super performé, t'as vraiment bien fait ici. Donc, ça peut être à la fois le feedback immédiat en disant ah, bah tiens, là, peut-être que t'as entre guillemets merdé, mais voilà ce que t'aurais pu, voilà ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses. Donc, il est capable de le dire à chose qui va pas tout de suite, mais il est aussi tout à fait capable de dire tout de suite quand c'est super. Et il y a aussi cette force-là du côté du leader compétitif, c'est aussi la reconnaissance et de valoriser l'effort, valoriser la performance. Et ça, c'est très motivant également pour une équipe. Et enfin, il ne va pas hésiter aussi à modéliser, c'est-à-dire à voir qui fait quoi, de quelle manière, et dire, bah, tiens, tu peux t'inspirer de cette personne. Tiens, regarde comment a fait cette personne. Est-ce que toi, tu pourrais peut-être faire pareil? Et le fait de modéliser en fait ce qui fonctionne bien, ça va donner des sources d'inspiration aux personnes et c'est quelque chose qui fonctionne bien aussi. Bon, c'est bien connu, hein, les sportifs de haut niveau, qui sont souvent des compétitifs, vont s'inspirer d'anciens champions ou de champions dans d'autres disciplines pour pouvoir eux-mêmes progresser. Et ça, c'est une caractéristique également des leaders dans la manière de communiquer.
Complètement, et sur l'inspiration aussi, hein, voilà, ils sont orientés vers les résultats. C'est important de gagner. La phrase, on a participé.
L'important, c'est de participer.
Voilà, ça, cette phrase-là,
ouais.
Un compétitif,
ouais.
Il ne vous dit pas ça. C'est jamais de la vie. De quoi c'est important de participer? On est là pour gagner ou quoi, là, tu vois? Donc, dans Koh-Lanta ou dans les conneries comme ça, dans les émissions un peu de survie, il y a beaucoup de compétitifs. Pourquoi? Parce que c'est des mecs qui ont un mental de fou. Ils ont un mental, ils ne vont pas lâcher. Ils ne vont pas lâcher. C'est viscéral chez eux. C'est la victoire compte plus. Et c'est hyper bien d'avoir des gens comme ça dans son équipe. Évidemment, vous comprenez qu'avec tous les profils qu'on vous a dit, si on prend les... Parce qu'on grossit le trait, hein, effectivement, c'est normal pour que vous compreniez bien. Mais si on a un très, très grossi en compétitif et un très, très grossi en, je ne sais pas, diplomate, vous voyez qu'il va y avoir des petites percussions dans la com. Et alors que le compétitif, il va arriver de manière tout à fait naturelle. Écoute, mon gars, tu vois ton service là, c'était de la merde. On ne va pas se mentir, c'était de la merde. Le diplomate, jamais il va dire ça. Et s'il dit ça à un diplomate, le diplomate, il va être choqué, il va aller se mettre à pleurer, il ne va pas être bien. Mais le compétitif n'aura pas dit ça pour faire du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est un peu, des fois, si on tire le trait, il peut être un peu brut de décoffrage. Il va dire ce qu'il pense, il est sans filtre, ça va, boum, ça va pas, boum. Même ton, même combat, c'est comme ça. Il est dans l'excellence, il est dans la détermination, il est dans le mec qui est en train de chialer à l'autre bout de la file, là, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il avance pas? Mais vraiment, c'est même pas qu'il est, c'est pas quelqu'un de méchant quand il dit ça, c'est qu'il pense, il ne comprend pas comment on peut abandonner. Voilà. Donc voilà, c'est moi je dirais sur le réseau social, moi je le mettrais sur Twitter parce que il peut te mettre une grande baigne comme ça ou alors te faire rigoler quoi. C'est un double tranchant.
Et en même temps, ce qui est intéressant aussi, c'est que lui il va peut-être mieux communiquer comme ça, c'est-à-dire que un leader compétitif vaut mieux lui parler direct, ne pas attendre à la fin du mois pour y aller. Lui, il veut du feedback direct. Donc, si c'est nul, il faut qu'il entende tout de suite. Comme ça, il peut tout de suite progresser, en fait. Donc, il y a aussi cette dimension de l'instantanéité chez le leader compétitif également.
Exactement. Et ça, c'est un point hyper important que tu soulignes. Dans tout ce qu'on vous a dit là sur la com, l'inspiration, la motivation, à chaque fois, la façon de communiquer, une fois que vous la comprenez, si vous l'appliquez à ce profil, ça va hyper bien se passer. Parce que vous serez dans son mode de fonctionnement et que du coup, vous allez vous comprendre. Donc, effectivement, un leader compétitif, il ne faut pas hésiter à lui rebalancer. Il vous fait un service, il faut lui remettre un coup droit, quoi. Voilà, c'est allez, on y va. Et il n'y aura aucun problème avec ça. Je pense qu'on a, on a fait tous les profils, là.
Non, il manque mentor.
Ah oui?
On n'a pas fait mentor.
Mais qu'est-ce que
parce
j'ai fait?
Parce qu'en effet, donc, il nous reste encore... Le... Hmm
c'est moi qui t'ai mal fait le... Ah oui, parce que je suis passée de pragmatique à visionnaire tout à l'heure. Hmm.
Donc, il nous reste le profil de mentor, donc de leader-mentor. Alors, leader-mentor, comment il va communiquer? Le leader-mentor, son objectif, c'est le progrès. C'est vraiment le progrès, l'apprentissage, l'évolution. Et donc, quoi de mieux que, justement, le feedback également, qui est très présent chez le mentor. Peut-être pas à la même manière qu'un leader compétitif.
Non.
Lui, il va être tout de suite dans l'instant. Le leader mentor va créer des moments justement avec les autres pour pouvoir délivrer ses feedbacks et être présent pour la personne pour qu'elle puisse progresser. Donc, un leader mentor, c'est une personne qui va, au même titre que le diplomate, passer beaucoup de temps one-to-one avec chacune des autres membres de l'équipe en disant, voilà, sur quoi tu es en train de d'avancer aujourd'hui, comment tu peux progresser. Il va avoir une posture un peu de coach quelque part auprès des autres pour les aider à réfléchir, à grandir, à trouver leurs propres solutions par rapport à leurs défis. Au-delà de cette casquette de coach à travers le feedback constructif, le leader-mentor a aussi souvent une posture de soutien, d'accompagnement, d'être de présence, d'être vraiment ce côté, bah voilà, ce leader-là est présent pour les autres, pour les accompagner au mieux, toujours dans cette volonté de progrès. Donc, c'est vrai que parfois, le point négatif dans la manière de fonctionner de ce type de leadership, ça peut être de trop accompagner, d'être trop dans le fait de soutenir la personne et que finalement, ça ne la permet pas d'être autonome. Donc ça, c'est attention à ça. Un leader est là pour faire grandir les gens et donc de les autonomiser et pas de créer une forme de dépendance. Donc attention à ça également. Mais en tout cas, voilà, le leader, mentor, a une posture de coach, a une posture de transmission dans cette volonté de progrès, de progression, et quelque chose qui l'agace, c'est une personne qui n'a pas envie d'apprendre. Alors ça, c'est le truc qui va vraiment agacer un leader mentor en disant ouais, non, mais ça, c'est pas mon truc. Ou ah ouais, mais moi, le truc qui va agacer, c'est par exemple, moi, la technologie, c'est pas mon truc. Ouais. Mais bon, on est en 2024, si la technologie, c'est pas ton truc.
Ouais.
Voilà. Donc, le leader mentor est vraiment dans cette dynamique-là. Et ce qui le passionne, ça va être la nouveauté, les nouveaux trucs, comment les personnes. Comment les personnes grandissent, et un truc qui va vraiment être super stimulant pour lui en termes de communication et qui va l'aider aussi à mieux communiquer, c'est quand une personne va arriver avec une victoire, avec le fait qu'elle a avancé, qu'elle a testé des choses et que tout le monde arrive en disant, voilà, j'ai testé ce truc-là, voilà ce que j'ai fait. Ça va vraiment aussi la stimuler. Si vous voulez parler à un leader mentor, parlez de ce que vous avez fait, de ce que vous avez appris, de ce que vous lisez, ça, il va kiffer.
Ouais, il va inspirer vraiment sur le développement personnel, la croissance personnelle, le fait d'encourager les gens, d'être là, d'être en soutien, d'être engageant, d'être des gens ouverts d'esprit. Voilà, il y a quelque chose qui se passe, c'est tu peux dire. Ok, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Il n'y aura pas de jugement, etc. Et ce sera vraiment toujours dans l'optique, même si les efforts n'ont pas porté ses fruits, parce que tu peux avoir des victoires géniales, mais tu peux... En fait, ce n'est même pas ça qui intéresse le leader mentor, c'est vraiment le processus. Enfin, toi, tu le sais mieux. Enfin, c'est toi. Le processus est plus important et l'intention et l'apprentissage est plus important même que le résultat. Est-ce que c'est vrai?
Oui, en effet, par rapport à un leader mentor, il va plus valoriser l'effort et le progrès que le résultat. Il est vraiment dans ce growth mindset,
exactement,
d'esprit de progression, plutôt que c'est ça le résultat et voilà quoi.
Voilà, exactement. Et voilà, la motivation, c'est le désir d'apprendre, de comprendre, de soutenir, qui a un développement personnel qui s'installe dans l'équipe et qui est, voilà, ils sont là en support, ils sont là en soutien, ils sont là pour les aider. Et c'est hyper important d'avoir aussi un leader mentor dans les équipes. Mais vous l'avez vu, hein, chacun des leaders est un pilier vraiment. Et idéalement, c'est cool d'avoir tout ce panel de diversification, diversifié dans vos équipes et dans vos entreprises, parce que c'est ça aussi qui fait la richesse et c'est ça aussi qui fait l'équilibre. Parce que si vous avez une équipe entière de pragmatiques, je ne suis pas sûre que vos projets ils avancent très vite. Si vous avez une équipe entière de mentors, je ne suis pas sûre que vos projets ils se concrétisent vraiment. Vous voyez ce que je veux dire, c'est les visionnaires aussi. À un moment donné, ça ne va pas se concrétiser parce qu'à un moment donné, il faut des gens qui fassent aussi. Donc, voilà, et c'est bien d'avoir de la diversification. Et sur le réseau social mentor, ben moi, je dirais YouTube. Parce que YouTube, tu as les tutos, tu as l'apprentissage. Et aujourd'hui, je pense, enfin, j'ai l'intime conviction que si tu veux apprendre quelque chose, tu vas le trouver sur YouTube.
Mmh. Oui. Ouais, ça on retrouve tout là-dessus sur YouTube maintenant. Et je vais juste rebondir sur ce que tu disais sur il nous faut un peu de tout dans l'équipe. Oui, j'ai rajouté deux choses. Enfin, ça fait penser à deux choses que tu dis qui vont exactement dans ce sens-là. C'est que quand on est en duo, en groupe, etc., c'est pas parce qu'il n'y a pas un leader dans le groupe. Ça, c'est une croyance. Je trouve dommage, c'est oui, c'est le leader du groupe. Non, je pense qu'il y a un leader dans la situation et qu'en fonction de la situation, on a besoin du leader qu'il nous faut. Donc, on peut avoir dans un groupe 6-7 personnes, chacune de ces personnes ayant un profil dominant différent et qu'on peut avoir, en fonction des situations, eh bien, un leader différent pour chacune des situations. Donc déjà, ça, c'est ma première croyance. Et la deuxième aussi, c'est comme nous avons tous en potentiel chacune de ces facettes, on peut aussi, en s'adaptant aux personnes avec qui on s'exprime, choisir de changer de casquette en disant, bon, c'est vrai que moi, j'ai peut-être plus tendance à être tel leader. Bah là, clairement, il faut que je mette la casquette leader compétitif pour que j'arrive à communiquer avec cette personne. Sinon, on ne s'entendra pas. Et donc, cette flexibilité comportementale, et c'est pour ça qu'on partage toutes ces astuces pour pouvoir aussi développer chacune de ces facettes, bah vont vous aider justement à mieux vous adapter en fonction des profils auxquels vous faites face.
Complètement, complètement d'accord. Et puis, bah, si vous voulez aller encore plus loin, il y a quand même 400... Combien ?
Je crois qu'il y a 420 pages dedans.
Il y a quasiment 420 pages. Donc, vous avez de quoi être au top niveau.
Yes.
Merci beaucoup.
Ben merci, oui, merci à toi. Merci aux personnes qui nous regardent. Ben bien entendu, s'il y a des questions, avec grand plaisir pour y répondre. Hein, il suffit de laisser un commentaire. Et on pourra y répondre avec grand plaisir.
Alors, je vais passer. Il y avait Isabelle qui disait qu'elle était compétitive à 0%, qui avait fait le test. On a Sylvie qui nous dit « c'est top, merci ». Eh bien, top. Merci beaucoup, merci, Sylvie. On a… Alors, leader… Alors, ça, c'est les résultats. Leader collaboratif, 40,28%. Leader pragmatique, 18,37, collectif 13,43 et diplomate 10,25. Yes, bah toi, t'es vraiment en mode collaboratif à fond, hein, on va le dire. Et je pense que du coup, il faut que tu travailles un petit peu ton visionnaire et un petit peu ton mentor qui manque ici, mais du coup, qui ne doivent pas avoir des pourcentages très, très élevés. Donc, ce qu'il faut que tu travailles, c'est les choses les moins élevées. Donc, à partir de 10%, un petit peu de diplomate. Et en faisant ça, donc grâce au livre, grâce aux masterclass qu'on fait ensemble, eh ben, je pense que tu vas pouvoir avoir les petites astuces. Hein. On vous a mis des y a des exercices, il y a vraiment des choses pratico-pratiques, il y a des exemples. Voilà, c'est assez riche. C'est pas juste de la théorie. Il y a des cas, il y a des interviews. On a fait un truc vachement bien, vachement complet, en fait, Jérôme.
Bah oui.
Bon, bah, c'est top. Écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, vous voyez, en tout cas, voilà
Non.
à quoi ça ressemble un petit peu les pourcentages. Top.
Yes. Bon, bah, en tout cas, c'était vraiment un plaisir pour nous d'avoir pu partager ce moment avec vous. Merci, merci à toutes. Et bien entendu, on reste connecté. Si vous avez des questions, vous avez compris, hein, il y a un réseau social pour tout. Donc, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Partagez la bonne parole, le livre, voilà, qui, je pense, peut avoir un impact énorme au travail, bien entendu, mais pas que, parce que le fait de mieux comprendre comment fonctionnent les gens, ça fluidifie les relations. Alors, bien entendu, professionnelles, mais pas que. Donc, faites le test, faites faire le test aux personnes autour de vous aussi. Posez des questions, demandez, bah, tiens, toi, t'es plutôt quoi, etc. Et vous allez voir que ça peut apporter vraiment en plus, combiné avec le livre, une vraie fluidification de votre manière d'échanger avec les personnes et de voir que finalement, la différence, eh bien, c'est de la richesse, la différence, c'est de la diversité. Et il faut juste qu'on arrive à s'y adapter.
Exactement. Je ne peux pas dire mieux. Merci beaucoup, Jérôme. Et à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette masterclass. Et puis, on vous dit à très bientôt.
Merci, à bientôt.